Les coqs chantent et jour paraît, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons visiter une ferme laitière bas carbone à Fleur d'Aix, une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, à environ 20 km à l'ouest de Lille.
Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent, votre conducteur. Nous circulons actuellement sur la ligne à grande vitesse en direction de Lille.
C'est donc en train que nous faisons le trajet Paris-Lille et en voiture de Lille à Fleur d'Aix. Ce qui nous laisse le temps de vous dire un ou deux mots sur cette affaire de ferme bas carbone. La décarbonisation, c'est le fait de chercher à se passer de l'utilisation de combustibles fossiles tels que le pétrole, le charbon ou le gaz pour les remplacer par des énergies renouvelables. Retenons seulement que pour limiter le réchauffement climatique et son impact sur la planète, une politique de décarbonisation a été mise en œuvre dès 2012. Et en 2015, la filière laitière française a lancé son programme Ferme laitière bas carbone lors de la COP21. En juin 2018, la filière a défini une nouvelle feuille de route climatique avec la volonté de diminuer de 20% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 et la volonté de convertir la moitié des 58 000 fermes laitières d'ici 5 ans à 100% d'ici 10 ans. Aujourd'hui, la France compte 7500 fermes laitières bas carbone et c'est l'une d'elles que nous allons visiter à Fleur d'Aix. Nous sommes accompagnés par Jean-Marc Bèche, qui travaille à l'interprofession laitière française, le CNIEL, ou Centre national interprofessionnel de l'économie laitière qui a été créé en 1973 et regroupe les acteurs de la filière laitière française.
Alors, les gaz à effet de serre, ce sont tous les gaz émis par les activités humaines qui contribuent, selon l'avis des scientifiques, à réchauffer la planète. Bon, parce que ces gaz s'accumulent au niveau de l'atmosphère, je ne vous dirai pas à quelle altitude, ça je ne sais pas, mais et donc constituent une sorte d'effet de serre, c'est-à-dire que tout le rayonnement du soleil qui vient sur la Terre se réfléchit, mais du coup est piégé comme dans une serre, donc ça a tendance à réchauffer la planète. Voilà.
Ah, c'est-à-dire que naturellement le soleil envoie ses rayons, ils sont réfléchis, mais là, du fait de l'accumulation de ces gaz-là, ce n'est plus réfléchi, ça fait comme une espèce de bulle. Quoi.
Voilà, alors en fait, des gaz à effet de serre, il en faut.
Ah, il en faut.
Ah oui. C'est parce qu'il y a des gaz à effet de serre depuis
que le monde existe.
Ouais, c'est ça, que la planète est justement est vivable avec une température moyenne qui est tout à fait compatible avec la vie humaine. Mmh. La difficulté, c'est qu'avec le développement de l'activité alors industrielle, on ne sait pas trop quand, mais probablement à partir du 19e, où on a commencé à brûler du charbon, brûler du pétrole et tout, on a augmenté, l'activité humaine a eu tendance à augmenter cette couche de gaz à effet de serre, donc à renforcer l'épaisseur du verre, comme dans une serre, donc à réchauffer un peu. Voilà. Donc ça, c'est le problème général.
Et là-dedans, il y a le gaz carbonique, d'où le mot carbone.
Alors, les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs catégories. Le gaz carbonique est le plus connu, mais il y a aussi du méthane, il y a du protoxyde d'azote, mais je vous passe les détails. Ce que les scientifiques ont fait, ils ont dit, nous, on va tout traduire, tous ces gaz, en équivalent carbone, CO2, d'accord. Ils n'ont pas le même pouvoir impactant, mais ça ne fait rien, on va les traduire et tout. Donc, on parle de tous ces gaz en équivalent CO2, gaz carbonique ou carbone.
Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ce n'est pas le seul carbone qui est responsable.
Ouais. Alors, et là, on va peut-être revenir à l'échelle de la ferme laitière.
On est dans une laiterie.
Et donc, dans une ferme laitière, qu'est-ce qui se passe? Il y a une activité agricole classique avec des tracteurs, du matériel qui fonctionne, qui brûle du fioul. Enfin bon, il y a des engrais qui sont utilisés, on travaille les terres et tout. Et il y a des animaux. Et les animaux dans une ferme laitière avec des vaches laitières, ce sont les vaches. Et les vaches, elles ont une particularité qui est à la fois leur qualité et leur défaut. La première qualité, c'est qu'elles ont 4 estomacs qui leur permettent de transformer, c'est assez formidable, c'est complètement naturel, de transformer de l'herbe, du fourrage grossier en un super produit qui s'appelle le lait.
Et c'est pour ça qu'elles ruminent.
Et alors, mais pour arriver à cette prouesse, naturellement, la vache, elle rumine. Elle a 4 estomacs, donc elle brasse tout ça, mais c'est en même temps un petit méthaniseur naturel, quoi. Et quand elle rumine, ça, c'est le mauvais côté de l'affaire, c'est qu'elle l'émet, donc on pense toujours qu'elle pète, mais en fait, elle ne pète pas, elle rote, elle éructe du méthane, qui est un des gaz à effet de serre.
Le défi donc, c'est continuer à produire du lait, mais en limitant l'impact de cette activité sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire en diminuant les gaz à effet de serre.
Alors, du coup, sur l'animal, la vache qui émet ce méthane, pour l'instant, on ne sait pas faire grand-chose.
Bon. On n'y peut rien.
En revanche, ce qu'on sait faire, c'est par exemple élever les vaches de manière à ce que dans leur vie, en compatibilité avec leur bien-être évidemment, qu'elles soient productives le plus possible au bon moment. C'est-à-dire, différemment, une vache qui produit plus de lait parce qu'elle est tarie trop longtemps ou autre, et bien elle continue à ruminer, donc elle émet du méthane et elle ne fait pas de lait. Donc un des objectifs, c'est de réduire ces périodes où les vaches ne produisent pas de lait. Il faut qu'elles produisent du lait. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il y a d'autres postes, dont on parle de leviers sur lesquels les éleveurs peuvent intervenir. C'est peut-être utiliser moins de matériel, cultiver un peu différemment, utiliser moins le tracteur, moins labourer, avec d'autres techniques, et du coup...
Valoriser ce qu'on utilise.
Et dépenser moins de fuel. C'est aussi, dans les éléments qui rentrent dans le bilan carbone, puisqu'on parle de bilan carbone ou CO2, chaque fois qu'un éleveur est amené à acheter de l'aliment à l'extérieur, alors sur les fermes laitières, la plupart de l'aliment des vaches est produit sur la ferme, donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt
économique. Ah, plutôt que d'aller acheter un aliment produit industriellement, qui produit du gaz à effet de serre, le transporter, c'est-à-dire augmenter du gaz à effet de serre, on produit sur place ce qu'on consomme.
Et tout ce qu'on gagne en produisant en plus sur la ferme, c'est autant de gaz à effet de serre en moins qui sont émis.
On va en revenir au Tignel dans cette affaire. C'est-à-dire qu'au début, vous avez lancé un programme pilote. C'était en quelle année?
Alors en 2013, ce sont des chercheurs en fait, des techniciens et des chercheurs, qui ont lancé un programme pilote en se disant... Il y a peut-être des choses à faire avec des éleveurs qui seraient volontaires pour entrer dans ce programme et pour voir comment on peut réduire. Il a bénéficié de fonds européens, mais c'était un projet pilote plutôt expérimental. Donc le CNIEL a été tout de suite très intéressé par ce projet, donc a été quand même partenaire. Et il se trouve que pendant 2 ans, il y a 3800 élevages, ce qui n'est pas rien, dans 6 régions, pas toutes les régions, mais 6 régions en France, qui se sont engagés, qui ont testé des diagnostics pour essayer de faire les bilans sur chaque ferme de ces émissions.
C'est-à-dire faire l'état des lieux.
Voilà, état des lieux. Et du coup, dès 2015, le CNIEL a dit, mais c'est super intéressant, au regard des premiers résultats, on peut vraiment identifier ferme par ferme les 2-3 postes ou pratiques sur lesquels on peut jouer et qui vont permettre de réduire cet impact, ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, le CNIEL a dit, ben nous, on est partant pour en faire un programme général sur toute la France, c'est-à-dire sortir des 6 régions, et en partenariat, c'est très important, avec les chambres d'agriculture et des organismes de conseil en élevage qui s'appellent France Conseil Élevage, donc qui sont vraiment sur le territoire. Donc, le programme Ferme laitière bas carbone donc, a été monté.
Je vous remercie.
Dans les faits, ce programme Ferme laitière bas carbone est une initiative portée et développée par le CNIEL, mais il y a eu d'autres partenaires dans cette affaire. Les chambres d'agriculture, France Conseil Élevage, l'Institut de l'élevage. À présent, le témoignage des producteurs qui nous reçoivent, c'est-à-dire Babette et Jean-Marc Burette. Avec sa femme et son fils, Jean-Marc Burette s'occupe d'un troupeau de 70 vaches laitières. Et c'est en 2015 qu'il s'engage dans la démarche bas carbone.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la ferme des Pâquerettes. Alors c'est une ferme qui se situe dans les Hauts-de-France, plus précisément dans le pays de la Leu, dans la plaine de la Lys. La plaine de la Lys est entre Lille, Armentières et Béthune, en zone périurbaine. Et ici, c'est un élevage laitier. Alors mon épouse et moi-même élevons des vaches laitières, 70 vaches laitières, et leur progéniture, c'est-à-dire les élèves, la suite, ça fait à peu près 130 animaux.
Ah, vous les appelez des élèves?
Les élèves, oui. Donc nous cultivons 68 hectares, principalement de la surface fourragère et un peu de culture de vente. Je veux vous expliquer maintenant la raison pourquoi nous avons travaillé sur l'empreinte carbone. Quand vous regardez l'habitat autour de vous, vous avez des pentes, des toitures assez pointues. En fait, par ici, normalement, les toitures sont conçues pour supporter la neige. Donc ça fait 5-6 ans qu'il n'y a plus de neige. Donc on sent bien que le climat change Et aussi, les cultures, les récoltes mûrissent de plus en plus vite. Aujourd'hui, nous avons presque un mois d'avance par rapport à il y a quelques années que quand je me suis installé. Donc, ce sont des éléments qui, si vous êtes un peu observateur, qui ne peuvent pas vous échapper en tant qu'agriculteur, en tant qu'éleveur. Donc, la question se pose, pourquoi ? Donc, apparemment, avec tout ce qu'on entend, changement climatique, COP21, on est forcément... Enfin, moi, personnellement, je suis très sensibilisé à ça. Et la question, c'est, voilà, le climat change. D'après les statistiques, les enquêtes, l'agriculture a une part dans le réchauffement climatique. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de limiter à ma responsabilité sur mon lopin de terre, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ?
Donc, si j'ai bien compris, rien qu'en regardant autour de vous, vous voyez ces indices-là.
Voilà, oui.
Donc, vous avez dit, il faut qu'on fasse quelque chose.
Voilà, exactement.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ?
Et je me dis, l'agriculture, en fait, par la photosynthèse, l'agriculture capte le carbone. Et donc, d'accord, on émet des gaz à effet de serre à travers le gaz carbonique et l'épandage des engrais chimiques, mais aussi, l'agriculture est aussi une solution pour le climat parce qu'il capte aussi le carbone à travers la photosynthèse des plantes et la réutilisation pour l'élevage, qui l'élevage fournit aussi des engrais naturels très, très intéressants et aussi permet de nourrir les hommes.
Bon, on vous suit.
Alors, c'est mieux qu'on aujourd'hui, oui. Sur l'empreinte carbone, rapidement, il s'est dégagé des pistes de solutions pour réduire l'empreinte carbone. Et c'est ce que je vais vous proposer de vous faire voir aujourd'hui.
On y va.
Ici, vous êtes dans le bâtiment d'élevage. Alors, les vaches actuellement sont en prairie, quelques-unes qui mangent là. Et aussi, sur votre gauche, à la gauche, là, vous avez les bêtes, les animaux qui sont prêtes à mettre bas. Et là, vous avez les élèves de cette année, c'est-à-dire les veaux de moins de 6 mois, et qu'on va garder pour la relève dans 2 ans, qui vont remplacer une partie du troupeau dans 2 ans. Le programme a mis en avant que je devais, si c'était possible, d'avoir plus d'autonomie alimentaire, de consommer moins de concentrés protéiques, moins de tourteaux protéiques, et aussi une diminution des engrais chimiques. Ça, c'est les leviers possibles pour diminuer mon empreinte carbone, qui était mise en évidence à travers cette photographie première de l'empreinte carbone du bilan, le premier bilan de 2015. Alors aujourd'hui, j'allais pas recommencer à mettre de la prairie, parce que les sols ne supportent pas bien la prairie, j'arrive pas à nourrir mes animaux avec de la prairie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette sécurité. Alors que le maïs, par ici, le maïs fourrage, convient beaucoup mieux à la région et au climat, c'est-à-dire au microclimat. Donc, à titre d'exemple, un hectare de prairie va me nourrir une vache, alors qu'un hectare de maïs va pouvoir me nourrir 2 vaches. Donc, avec le peu de surface, vu que je suis en forte pression foncière, nous sommes dans un contexte périurbain, où la pression foncière est forte, il faut que j'optimise ma surface pour nourrir mes animaux. Donc, j'ai fait le choix de continuer le maïs fourrage, quoique j'ai déjà un peu de prairies, de garder les prairies existantes parce qu'il y a des haies qui stockent le carbone aussi, et aussi comment je peux faire pour diminuer mes engrais chimiques sur le maïs fourrage. Les effluents d'élevage ont été mieux utilisés, si vous voulez, c'est-à-dire les effluents d'élevage, c'est-à-dire les déjections des animaux, qui sont des formidables engrais naturels. Je les ai retravaillés. Et en contrepartie, j'ai pu diminuer ma part d'engrais chimiques apportés pour le maïs fourrage.
Retravailler, qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai retravaillé, c'est-à-dire que je les ai mélangés de manière plus homogène, ce qui a permis de concentrer la valeur azotée, phosphore et potasse, 3 éléments majeurs de la plante, qui a permis de mieux valoriser ces effluents d'élevage qui sont des engrais naturels. Donc, quelque part, j'ai diminué toute ma chimie. Donc aujourd'hui, en valeur engrais chimique, j'ai diminué de 40%.
L'affaire n'est pas simple. Diminuer les achats d'engrais chimiques, c'est-à-dire produire du fourrage avec une empreinte carbone moindre. Et de l'autre côté, actionner les leviers qui sont les plus efficaces pour faire fonctionner la ferme en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Alors ici, je vous propose de voir le bâtiment, le logement des animaux, oui. Avec la part des aliments que vous avez là, oui. C'est-à-dire l'eau, le maïs, parce qu'une vache a besoin d'énergie qui est apportée par le maïs et de la protéine qui est apportée par des aliments extérieurs que j'achète. J'ai essayé d'être autonome, mais là, le climat ne s'y prête pas. Et du coup, j'achète du tourteau de colza qui vient de proximité. Voilà, donc des économies et par là même aussi mieux valoriser les effluents. Et donc pour l'environnement, c'est mieux aussi.
C'est-à-dire que vous avez regardé la terre, vous avez regardé ce qu'il fallait pour avoir la dose juste d'engrais.
Exactement, oui. Les déjections des animaux sont stockées ici avec la paille. Les effluents liquides, c'est-à-dire les pisseurs de vaches, tout ce qui est liquide part dans une fosse en dessous qui est récupérée après pour fertiliser les prairies. Et les fumiers sont oxygénés avec des déchets verts des communes, des espaces verts des communes, je vais vous faire voir après, pour concentrer la valeur et l'homogénéiser pour pouvoir épandre dans les champs et donc nourrir les plantes.
Les déchets verts, c'est quoi? Les tontes de gazon, tout ça?
Les tontes de gazon, oui. Les broyats, les sarments. Parce que depuis un an, mon fils est revenu sur la ferme et donc on a décidé de développer cette activité-là. En fait, je le faisais avant, mais je valorisais très mal. Maintenant, depuis que mon fils revient sur la ferme, avec un emploi supplémentaire, et donc on a décidé de valoriser cette diversification. Et c'est lui qui s'occupe du broyage et puis du compostage, l'épanchage dans les champs. Pour l'instant, on se contente de mélanger ensemble le produit. C'est des branches, des sarments de branches et du gazon.
Vous êtes sûr qu'on ne va pas la déranger là?
Regardez.
Bon, on vous écoute.
Alors pour l'histoire, toutes les vaches ont un nom ici. Et Jeanlin a donné naissance à des filles, Maritsu. C'est de la bière, on est un peu chaud, hein, vous l'avez compris. qui sait, une autre fille aussi qu'elle a donnée, Babette, tu te souviens un peu?
Faudrait que
oui, Wessan, c'est une bière aussi. Il y a Maretsu. Après, il y a... Ah, j'ai pas mon cahier, je retiens pas tous les noms. Orval. Alors,
voilà. Donc là, elles passent la journée dans la prairie ici?
Elles font ce qu'elles veulent, en fait. Elles peuvent rentrer quand elles veulent.
Attends, elles peuvent brouter là ou aller...
Elles peuvent rester dehors, comme aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, elles sont bien. Par contre, cet été, il faisait très chaud, elles étaient à l'intérieur. Et je leur avais aménagé un espace douche et un espace ventilation et un espace massage.
Elles sont une villégiature, quoi.
Ah. Aujourd'hui, avec le pont bascule, dans mon télescopique aussi, j'ai un système de pesée embarquée, ce qui permet de connaître exactement les besoins de ma vache et donc de donner... strictement ce qu'elle a besoin, qu'elle évite d'être trop gourmande. Parce qu'une vache, c'est gourmand. Comme un homme, si vous voulez, on a chacun ses défauts. Je suis gourmand aussi, vous avez.
Nous étions à Fleurbex, une commune française située dans le département de Pas-de-Calais, dans la ferme laitière de Babette et Jean-Marc Burette, l'une des 7700 fermes laitières bas carbone de France, une opération promue par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours cette information, si vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, il vous suffit de télécharger l'application RFI Plus Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.